où il y avait toujours un fagot prêt allumé au coup de sonnette. C'était l'heure de ses consultations. L'avocat portait une cravate blanche. L'annonce des 15 000 francs, il n'y comptait plus sans doute, lui causa un ricanement de plaisir. « C'est bien, mon brave, c'est bien, c'est très bien. » Il jeta du bois dans le feu, se rassit, et parla immédiatement du journal. La première chose à faire était de se débarrasser du sonnet. « Ce crétin-là me fatigue. Quant à desservir une opinion, le plus équitable selon moi et le plus fort, c'est d'en avoir aucune. » Frédéric parut étonné. « Mais sans doute, il serait temps de traiter la politique scientifiquement. Les vieux du XVIIIe siècle commençaient, quand Rousseau, les littérateurs, y ont introduit la philanthropie, la poésie et autres blagues, pour la plus grande joie des catholiques, alliance naturelle du reste, puisque les réformateurs modernes, je peux le prouver, croient tous à la révélation. Mais si vous chantez des messes pour la Pologne, si à la place du dieu des dominicains, qui était un bourreau, vous prenez le dieu des romantiques, qui est un tapissier, si enfin vous n'avez pas de l'absolu une conception plus large que vos aïeux, la monarchie percera sous vos formes républicaines, et votre bonnet rouge ne sera jamais qu'une calotte sacerdotale. Seulement, le régime cellulaire aura remplacé la torture, l'outrage à la religion, le sacrilège, le concert européen, la Sainte Alliance, et dans ce bel ordre qu'on admire, fait de débris Louis XIVien, de ruines voltairiennes, avec du badigeon impérial par-dessus et des fragments de constitution anglaise, on verra les conseils municipaux tâchant de vexer le maire, les conseils généraux leur préfet, les chambres le roi, la presse le pouvoir, l'administration tout le monde. Mais les bonnes âmes s'extasient sur le code civil, œuvre fabriquée, quoi qu'on dise, dans un esprit mesquin, tyrannique. Car le législateur, au lieu de faire son état, qui est de régulariser la coutume, a prétendu modeler la société comme un lycurgue. Pourquoi la loi gêne-t-elle le père de famille en matière de testament? Pourquoi entrave-t-elle la vente forcée des immeubles? Pourquoi punit-elle comme délit le vagabondage, lequel ne devrait pas être même une contravention? Et il y en a d'autres, je les connais. Aussi, je vais écrire un petit roman intitulé « Histoire de l'idée de justice », qui sera drôle. Mais j'ai une soif abominable, et toi? Il se pencha par la fenêtre et cria au portier d'aller chercher des grogues au cabaret. En résumé, je vois trois parties. Non, trois groupes. Udo Ocon ne m'intéresse. Ceux qui ont, ceux qui n'ont plus, et ceux qui tâchent d'avoir. Mais tous s'accordent dans l'idolâtrie imbécile de l'autorité. Exemple. Mably recommande qu'on empêche les philosophes de publier leur doctrine. M. Vronsky, géomètre, appelle en son langage la censure répression critique de la spontanéité spéculative. Le père enfantin bénit les Habsbourg d'avoir passé par-dessus les Alpes une main pesante pour comprimer l'Italie. Pierre Leroux veut qu'on vous force à entendre un orateur, et Louis Blanc incline à une religion d'État, tant ce peuple de vassaux à la rage du gouvernement. Pas un, cependant, n'est légitime, malgré leur sempiternel principe. Mais principe signifiant origine, il faut se reporter toujours à une révolution, à un acte de violence, à un fait transitoire. Ainsi, le principe du nôtre est la souveraineté nationale, comprise dans la forme parlementaire, quoique le Parlement n'en convienne pas. Mais en quoi la souveraineté du peuple serait-elle plus sacrée que le droit divin? L'un et l'autre sont deux fictions, assez de métaphysique, plus de fantômes. Pas n'est besoin de dogme pour faire balayer les rues. On dira que je renverse la société. Eh bien après, où serait le mal? Elle est propre, en effet, ta société. Frédéric aurait eu beaucoup de choses à lui répondre. Mais le voyant loin des théories de Sénécal, il était plein d'indulgence. Il se contenta d'objecter qu'un pareil système les ferait haïr généralement. Au contraire, comme nous aurons donné à chaque parti un gage de haine contre son voisin, tous compteront sur nous. Tu vas t'y mettre aussi, toi, et nous faire de la critique transcendante? Il fallait attaquer les idées reçues, l'académie, l'école normande, le conservatoire, la comédie française, tout ce qui ressemblait à une institution. C'est par là qu'il donnerait un ensemble de doctrines à leur revue. Puis, quand elles seraient bien posées, le journal tout à coup deviendrait quotidien. Alors il s'en prendrait aux personnes. Et on nous respectera, sois-en sûr. Deslauriers touchait à son vieux rêve. Une rédaction en chef, c'est-à-dire au bonheur inexprimable de diriger les autres, de tailler en plein dans leurs articles, d'en commander et d'en refuser. Ses yeux pétillaient sous ses lunettes, il s'exaltait et buvait des petits verres, coup sur coup, machinalement. « Il faudra que tu donnes un dîner, une fois la semaine. C'est indispensable, quand même la moitié de ton revenu y passerait. On voudra y venir, ce sera un centre pour les autres, un levier pour toi. » Et maniant l'opinion par les deux bouts, littérature et politique, avant 6 mois, tu verras, nous tiendrons le haut du pavé dans Paris. Frédéric, en l'écoutant, éprouvait une sensation de rajeunissement, comme un homme qui, après un long séjour dans une chambre, est transporté au grand air. Cet enthousiasme le gagnait. « Oui, j'étais un paresseux, un imbécile, tu as raison. »« À la bonne heure, » s'écria Deslauriers, « je retrouve mon Frédéric. » Et lui mettant le poing sous la mâchoire, « Ah, tu me fais souffrir. N'importe, je t'aime tout de même. » Ils étaient debout et se regardaient, attendris l'un et l'autre, et près de s'embrasser. Un bonnet de femme parut au seuil de l'antichambre. « Qui t'amène ?» dit Deslauriers. C'était Mademoiselle Clémence, sa maîtresse. Elle répondit que, passant devant sa maison par hasard, elle n'avait pu résister au désir de le voir, et pour faire une petite collation ensemble, elle lui apportait des gâteaux qu'elle déposa sur la table. « Prends garde à mes papiers, » reprit aigrement l'avocat. « D'ailleurs, c'est la troisième fois que je te défends de venir pendant mes consultations. » Elle voulut l'embrasser. « Bien, va-t'en, file ton nœud. » Il la repoussait, elle eut un grand sanglot. « Ah, tu m'ennuies à la fin. C'est que je t'aime. Je ne demande pas qu'on m'aime, mais qu'on m'oblige. » Ce mot, si dur, arrêta les larmes de Clémence. Elle se planta devant la fenêtre et y restait immobile, le front posé contre le carreau. Son attitude et son mutisme agaçaient Deslauriers. « Quand tu auras fini, tu commanderas ton carrosse, n'est-ce pas ?» Elle se retourna en sursaut. « Tu me renvoies ?»« Parfaitement. » Elle fixa sur lui ses grands yeux bleus, pour une dernière prière sans doute, puis croisa les deux bouts de son tartan, attendit une minute encore, et s'en alla. « Tu devrais la rappeler, » dit Frédéric. « Allons donc. » Et comme il avait besoin de sortir, Deslauriers passa dans sa cuisine, qui était son cabinet de toilette. Il y avait sur la dalle, près d'une paire de bottes, les débris d'un maigre déjeuner, et un matelas avec une couverture était roulé par terre dans un coin. « Ceci te démontre, » dit-il, « que je reçois peu de marquises. On s'en passe aisément en bas, et des autres aussi. Celles qui ne coûtent rien prennent votre temps. C'est de l'argent sous une autre forme. Or, je ne suis pas riche. Et puis, elles sont toutes si bêtes, si bêtes. Est-ce que tu peux causer avec une femme, toi ?» Ils se séparèrent à l'angle du pont neuf. « Ainsi, c'est convenu. Tu m'apporteras la chose demain, dès que tu l'auras. »« Convenu, » dit Frédéric. Le lendemain, à son réveil, il reçut par la poste un bon de 15 000 francs